bon. Je déclare cette première séance de 2013 ouverte. Etc. Et je fais l'appel. Monsieur Alonso Francis. Frédéric Arnault,
oui.
Gérard Bartoli, oui. Elisabeth Crando,
oui.
Thierry Boiscusé, procuration Fred, il est sur les trains. Kamler, Charbonnier, Marie-Madeleine, Pascal Cour, Sybille Gaillard, travail, procuration Gérald, Fabienne Goudinger, Christine Hugues, Brigitte Leboeuf, Gérald Etigue, Eugénie Loubet, Evelyne Loubet, Sandrine Martinez, absente, Dominique Moulard, Francis Darby, Claudette Pagès, François Pandolfi, Michel Perronnet, Gérard Brémont, Patrick Reboul, Marc Royer, nous avons une pensée pour lui, il a perdu son papa ce matin. Et donc c'est François qui a la procuration. Manuel Ruiz, Patrick est fatigué, je pense qu'il est sorti de l'hôpital, mais il était en soin à l'hôpital, donc c'est Brigitte qui a la procure, et moi-même. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Le compte est bon. 1, 2, 3, 4 procures et une absente. Donc on est sur 26. C'est ça?
C'est ça.
Allez! Alors. D'abord, la séance, la note de synthèse. Je vous proposerai. On aura pas un gros truc, c'est 12 mètres carrés, mais d'une session. Donc un deuxième conseil tout de suite après. Dans la foulée, le compte rendu de la séance du 17 décembre amène-t-elle des modifications ou des observations? Non. Qui me dit mon consent? Merci. Alors, première délibération, c'est le tableau des effectifs. C'est un agent qui était au service ménage, qui est passé au secrétariat, donc à la ressource humaine, et donc c'est la création d'un poste de ménage, mais qui va être pourvu, c'est pas une embauche qui va être pourvue par le remplaçant de, pour la cité, de Valérie Solaire, qui est ressources humaines, qui m'a suivi. Donc c'est la création d'un poste d'adjoint technique pour le ménage, puisque le poste d'adjoint technique reste toujours pour l'autre personne qu'on a gardé. Y a-t-il des questions? Qui contre? Qui s'abstient? Unanimité. Merci. Jeu de chaises médicales également au Smej, où il y a trois agents qui ont bougé et c'est leur remplaçant qui prennent le poste. Donc c'est la création de trois postes permanents à temps complet d'adjoint d'animation de deuxième classe au 1er mars. Il est question. On crée la case. Les gens y sont. Le nom. L'agent travaille. C'était un poste hein, qui est payé, etc. Mais le poste, comme c'était des remplacements, au bout d'un certain nombre de remplacements, il faut fidéliser des postes. La procédure, quand c'est, il y a soit un remplacement d'un agent malade. Ça veut dire que cet agent malade, il ne rentre plus. Les gens qu'on a, la personne qu'on embauche n'a pas la même grave. Il faut créer le poste pour qu'il puisse y venir. C'est une case. Le cas, là, ces agents d'animation ont changé de poste, soit un, la dernière fois, pour raison maladie, etc., qu'il a fallu réaffecter. Donc la personne, on l'a, pas mis dehors, on la garde et on l'a fait dans un poste. Mais on crée un poste, puisque ce poste, c'est un agent de plus et qu'il faut créer le poste. Cette personne, très souvent, c'est le cas-là, sont des gens qui travaillent déjà dans la mairie, mais qui sont dans une situation, on va dire, d'emploi précaire. Et quand on finalise le poste, on crée le poste pour les garder. Mais on n'embauche pas trois personnes, le travail est déjà dans la mairie. C'est ça? C'est Maurras?
C'est ça, oui, ben, voilà. Puisque les titulaires du poste ne peuvent plus les occuper.
Ok. Donc vous avez par exemple le cas de Jibril, qui est toujours dans la mairie, puisque qui, pour X raison, n'est plus au service en base de jeunesse, est au service protocole, disons. Bon. Et néanmoins, il y a quelqu'un qui l'a remplacé, qu'il faut que cette personne, au bout de 3 mois, 6 mois, si elle fait l'affaire, il faut qu'on la régularise. Et on risque d'avoir sur les femmes de ménage, dans les années qui viennent, de plus en plus à réaffecter et à créer des postes, parce qu'on a des gens qui peuvent plus faire le boulot. Il y a 2 formules. Soit on considère qu'ils sont plus aptes et on les licencie, soit on leur trouve un poste adéquat qui permet d'eux, mais ça nous crée un poste. Pour le moment, on n'a licencié personne. Donc, je reviens sur la modification d'effectifs à la création de ces 3 postes permanents à temps complet, qui est contre, qui s'abstient. Merci. Modification de la délibération. Alors, je ne sais pas comment on s'est débrouillé. Dans une délibération pour le remplacement de Mme Blaise, on avait mis Thierry. Il s'avère que Thierry était déjà le suppléant de quelqu'un. Donc le SAM nous a fait remarquer que notre délibre ne marchait pas parce que Thierry Bois était déjà suppléant de quelqu'un, je ne sais plus de qui, de Manu. Donc c'est Pascal Lecourt qui sera la suppléante de Michel Perronnet en remplacement de Marcel Blaise. Des questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. L'inventaire du SAM, la place Champollion à Istres. Qui passe de l'inventaire pyramide et accueil, qui est détaché, donc qui sort de l'inventaire, qui rentre dans l'inventaire mairie, qui sort de l'inventaire SAN. Des questions? Il n'y en a pas. Qui est pour? Qui est contre? Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Merci. Réhabilitation de la carte intercommunale sur la dissolution de Crapaud-Durance. Les anciens se souviennent qu'il doit y avoir 40 ans, mais ce n'est même pas nous qui avons acheté. Les communes de la Naissance, avec la Charleval, avaient acheté un terrain à Chabot, le fameux terrain de Chabot, pour à l'époque, quand les mairies construisaient des colonies. Puis ça a traîné et viré des années, puis on n'a pas construit la colonie, et on a vendu ce terrain, ce qui veut dire qu'on a récolté une café-crème, mais peu importe. Et le préfet, dans le cadre de la réforme et la rationalisation de la loi Sarkozy, des mises à jour un peu des intercos ou des trucs, nous demande de supprimer ce syndicat Crapaud-Durance qui n'a plus d'utilité. Donc, il faut des livres pour supprimer, comme le font toutes les autres mairies qui avaient acheté ce terrain en commun. Des questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Merci. La révision des fonds de coopération. Alors, nous avons, c'est suite au SAN, il faut que nous approuvions, dans le cadre d'une négociation avec Ouest-Provence, là je parle de sur Ouest-Provence, nous avons fait passer 1 350 000 euros de la partie non pérenne à la partie pérenne. Ce qui veut dire que c'est 1 350 000 euros, fonds pour grand 50 825,87 qui partent de la dotation non pérenne en dotation pérenne. C'est-à-dire que si un jour on n'existait plus le SAN ou quoi, cette somme qui la porte, donc qui porte la totalité de grand ça
1 million 80.
Ça c'est pérenne. Dans le cadre du budget du SAN, nous avons remis au pot sur la partie pérenne 1 million d'euros que nous avons réparti dans le cadre des critères habituels en coopération donc, et qui fait que la commune de Grance, mais là c'est pas là, non, c'est que la partie pérenne, va toucher environ 40 et quelques mille euros. Vous ne l'avez pas sur cette délibre, ça c'est le fonds de péréquation. Et nous avons également, dans le cadre des transferts de charges et des transferts de compétences, on récupère 2 414 euros pour... Je parle bien, dans le cadre de transferts de compétences, on récupère 2 414 euros C'est... Non, c'est la dotation, c'est ce qu'on transfère au CCAS, c'est que ce que le SAN versait à Noël pour quelques bonnes de viande, d'achat de viande, etc., pour quelques personnes, c'est basculé à la mairie, et donc c'est le CCAS qui aura cette somme. Et nous allons avoir la somme à peu près 35 ou 40 000 euros de transfert de charges. Je m'ai demandé à revoir les chiffres pour la récupération de Marie-Rose. Mais on ne l'a pas là, puisque j'ai contesté les chiffres qui nous étaient proposés. J'ai été assez clair, un peu brouillon, et j'ai posé des questions. C'est bon ? Pas de questions ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Unanimité. Merci. Alors, nous avons une modification, oui, je ne sais plus qui m'avait fait remarquer, on avait mis la Busquette un peu vite, on a reçu une lettre de la famille La Busquette, qui nous a demandé, je sais bien, mais tout le monde connaît La Busquette, la famille Calment, qui nous a fait remarquer que La Busquette, c'était plus ou moins le dérivé du nom de la grand-mère. L'Aurélienne. Et donc, ils veulent garder pour le match
le reste de la Busquette. Voilà. Ils ont demandé d'enlever la Busquette.
Donc, suite à beaucoup de tractations, on en est arrivé
à Clos-la-Glacière.
Voilà, ça a nécessité.
C'est-à-dire la Busquette n'est plus employée ni pour le.
Si, on le garde pour le match, la Busquette.
Pour le
voilà. Voilà. Pour eux.
Ceci dit, Clos la Glacière, chez Roux de la Glacière, avec une mairie à la poste en ce moment, c'est une facilité pas compagnie.
Alors, je sais, mais comme on est en train de voir, où d'ailleurs la poste est partagée, parce que toi tu nous dis qu'il faut absolument mettre les numéros partout, les postiers nous disent non, il faut les noms sur les boîtes à lettres. Donc on est en train, mais bon, là on reverra ça par quartier.
Mais Clos la Glacière, monter la Glacière.
Christine est en train de revoir certaines rues pour faire le métré et donner des numéros au métré. On en a parlé tout à l'heure. Et on verra s'il faut, comme il y a un an et demi de construction. Voilà, là il fallait ça pour le permis, on verra, il y a des personnes qui habitent, mais c'est bien, c'est l'histoire de Gaulle, c'est 12 personnes qui habitent le quartier, il y a 12 noms différents, c'est une casse-tête pas possible. Voilà, donc on met ça, pour le permis de construire, c'est réglé.
Monsieur Machin a tel numéro, on sait où la boîte aux lettres, mais si Monsieur
Machin
vient d'arriver ou.
Les postiers nous font remarquer qu'il y a beaucoup de boîtes à lettres et tu peux le confirmer, mais il n'y a même pas un nom. Même pas le nom, mais là, pour faire obliger les gens à mettre leur nom. Hein. Ouais. Mais du coup, alors les nouveaux facteurs, ils ne voient pas le nom, ça retourne à l'adresse, n'habite pas à l'adresse unique. Donc, je vous propose le temps de voir un peu comment tout ça s'arrange, le clos, la glacière, pour faire répondre à la demande de Calament, qui, la famille Monique Calament, qui veut garder son nom sur sa bastide. Parce qu'aussi long que le budget. Qui est contre, qui s'abstient. Tu t'abstiens ?
On
va demander aux gens qui vont y habiter, parce que ceux qui y habitent, ils nous refont la lettre pour rechanger le nom. Alors là, nous avons une proposition pour le chemin piétonnier qui a quand même deux entrées pour la promenade du moulin à huile. C'est le chemin piéton qui arrive au moulin à huile. Donc là, les riverains nous proposent la promenade du moulin à huile. Je vous propose de l'adopter, puisque promenade du moulin à huile, c'est. Voilà. Pour ce genre de truc, on peut y débattre la soirée. Mais bon, voilà. Donc, qui est contre ? Qui s'abstient ? Unanimité pour la promenade du moulin à huile. Voilà. J'ai fini en ce qui me concerne. Et je passe la parole à M. Nardi pour la présentation du rapport annuel sur le prix de l'eau. 450 pages à votre disposition sur le site et qui peuvent se résumer d'une phrase si vous l'avez consulté. Mais ceci dit, vous pouvez faire un peu plus long.
384 pages, il m'a demandé de pouvoir raccourcir.
Oui.
Bon, alors, dans l'ensemble, le résultat du rapport annuel de 2011, aussi bien pour l'eau que pour l'assainissement, il est favori, il est un peu bon. Donc, quelques petits chiffres, juste pour en parler aussi, là. Nombre d'abonnés, il a une augmentation de 83, à 416. La consommation moyenne est de 5-6 mètres cubes par abonné et un légère baisse par rapport à l'année précédente. C'est-à-dire que les gens, ils font un peu de l'économie. Alors, ce qui est très intéressant, c'est qu'avec le deuxième réservoir, nous avons une très bonne autonomie. Normalement, une autonomie, elle est prévue pour au moins 24 heures. Et là, nous avons une autonomie maintenant avec nos deux réservoirs qui passe à 2000 mètres cubes, de 85 heures en consommation moyenne et en consommation un peu en pointe, 60 heures. Ça veut dire qu'on est vraiment au-dessus de nos moyennes. L'indice, ce qu'ils ont fait de très gros efforts là, à la SEM, et avec les nouveaux appareils qu'ils ont pour détecter des fuites, puisqu'ils arrivent à trouver la fuite sur environ 250 mètres, ils ont des appareils qui trouvent la fuite sur 50 cm à peu près. Et étant donné que nous avons pas mal de fuites, nous étions à 69 au kilomètre, et avec une perte de 65%, on a vu le rendement qui passe ainsi plutôt de 65 à 82%. Alors là, ils ont fait de gros efforts parce qu'il y a eu des remplacements de rames, des remplacements de conduite. Chez les particuliers aussi, de nombreuses fuites parce que les raccordements étaient un peu anciens. Et en espérant que ça continue. Alors, en ce qui concerne la qualité de l'eau, 22 analyses effectuées en 2011, RAS. Taux de conformité pour l'ensemble des analyses, 100%. Voilà. Alors, le prix de l'eau, par contre, il a baissé, puisque en 2009, nous étions à 1,63 euros TTC, et nous sommes à 1,39 au 1er janvier 2012, pour la base de notre facture de 120 mètres cubes. Alors, il y a une étude qui se fait maintenant suite à différents incidents, mais je crois qu'on l'avait déjà dit, à différents incidents qu'il y avait eu dans les communes de Miramas et d'Istres, pour essayer d'avoir de jumeler deux communes avec des différents rapports d'eau en cas de fusion. Alors, par exemple, nous avons qu'à la frontière à Marie-Rose. Au moment donné, il était prévu, mais ça nous faisait très bien, très loin, c'était de faire un forage du côté de Pessut, et on a possibilité d'interdiscussion, c'est-à-dire que le sang est en discussion avec Salon pour avoir un raccordement au niveau de Livre Le Jardin, ce qui nous permettrait qu'en cas de coudure, mais comme on l'a fait dans Marie-Rose, une pollution au manque d'eau serait alimentée par Salon. Par le Livre Le Jardin et la conduite qui revient, qui passe à l'autoroute. Comme quoi, à l'époque, on n'y pensait pas, mais finalement, c'est une bonne chose.
On a même proposé d'alimenter Salon pour la saison des gadets, qui ne pouvaient pas s'alimenter à l'époque.
Oui, ouais. Bon, voilà ce qui concerne à peu près pour l'eau. Pour l'assainissement, on appelle ça un habitant bonnet. Donc, on a fait de nouvelles canalisations, notamment à Richier, le Courcamier-Pelletin, la rive gauche de la Touloubre. Il y en a pas mal qui ont été aussi curés, parce qu'il commençait à y avoir des canalisations très vieilles, comme celle devant la mairie, le Joffrey. Il est envisagé, il y a eu ça aussi à la Pâte du Mans, eau et assainissement. Dans l'ensemble, pas énormément de problèmes. Chaque fois qu'il y a des fuites, ils sont là dans les 2 heures, 3 heures qui suivent. Ils ont eu quelques problèmes avec les pompes qu'on a repris, les pompes de relevage dans la Touloubre. Et il nous reste surtout l'assainissement à faire au côté droit de la Touloubre. Et là, donc, c'est des discussions que nous avons avec le SAN. Avec le SAD et le syndicat de la Touloubre, au niveau de faire la conduite sur le niveau droit. Voilà. pour l'assainissement,
ça fait l'épuration à l'étude.
Alors les travaux sont à la charge des collectivités. Et donc, la localisation et l'extension du réseau. Par contre, la SEM, évidemment, a l'entretien de tout ce qui est équipement, fonctionnement, pompe orange, etc.
Station d'épuration, l'étude a démarré pour une nouvelle station d'épuration.
Bon, voilà, donc, alors, au niveau du prix, il est à 1,55 au premier 2012. Et il était à 2,32 en 2009. Nous nous retrouvons maintenant sur les six communes, à quelques variantes près, on se retrouve à peu près tous à peu près à égalité. Voilà. Alors, le prix du total de l'eau et l'assainissement, il était de 2012 en 2,94 et en 2009, 3,95, donc un moins de 12,36%. Voilà, à peu près. Alors, donc, il faut faire en découpe, parce qu'on ne peut pas développer 384 pages. Pour ceux que ça intéresse, tout le détail, point par point, est sur le site. Voilà.
De la commune.
De la commune.
Oui.
Ouais, moi, je voulais vous préciser aussi, parce que je reconnais, je ne suis pas allé sur le site. Au niveau du support, parce que là, pour une fois, on en parle. Au niveau du support, là, c'est bien abordé, mais on n'a pas les tarifs. Et est-ce que sur le site, il y a des rentrées dans les services du sport et des sorties, effectivement, d'argent, le nombre de personnes qui... Parce que là, on a que le nombre de postes, je crois, si je me souviens bien, conforme.
Oui.
Par contre, on n'a pas le bilan financier, c'est pas qui paye et combien il paye et à
son ça, je ne l'ai pas, mais pour le moment, c'est un...
Pourquoi je pose la question, c'est parce qu'on a écrit, hein, et on n'a pas de réponse.
Non, mais le SPAM, il n'y a plus de contrat de SPAM, puisque le contrat est venu à échéance il y a 6 mois. Il a été relancé un appel d'offres au niveau de l'Ouest-Provence pour le SPAM, pour Cormion et Grance. Il s'est avéré que l'entreprise qui a fait les propositions avait de tels prix intéressants, en plus c'est la même que ce que nous avions. L'Ouest-Provence a profité de cette situation parce qu'il y avait Istres qui n'avait pas encore, Port Saint-Louis qui n'avait pas encore de contrat. Ils ont relancé un appel d'offres sur les 6 communes de l'Ouest-Provence pour avoir une gestion globale sur les 6 communes. L'ouverture des prix devrait avoir lieu dans les 2 mois.
D'accord. Pourquoi cette question ? C'est parce que sur Grasse, vous le savez, il y a énormément de propriétaires de réceptifs qui ont été, je ne veux pas dire harcelés, mais bien bouchés.
Mais ça va continuer, parce qu'une dette, comme la facture. Ça se voit le percepteur, en vrai.
Non, bon, d'accord. Mais puisqu'il n'y a plus de permis, on va dire. Puisque
le... Mais la dette reste, hein.
Ouais, mais
le permis, il gère la dette.
Tout le monde n'a pas payé sur l'Anse. Oui. Tout le monde n'a absolument pas payé sur Corbillon. Et pareil, sur Néanmoins, c'est différent. Donc, là, ça pose un même problème d'égalité devant la facture sur un service qui, en plus, maintenant, n'a plus de
non.
Il y a deux
choses.
D'accord, ça se confirme.
Alors, il y a
une commune de France va gérer ce problème par rapport à...
C'est pas nous.
C'est pas nous, ce sera la
Je rappelle qu'un service concédé, est une facture officielle, mais qui est concédée en gestion dans une structure. C'est un service concédé. C'est une compétence intercommunale de l'Ouest-Provence. Ce n'est pas la ville de Grance, c'est la gestion. Ce service concédé, s'il vient à échéance, s'il n'y a pas une entreprise qui reprend, l'institution, la dette reste et le percepteur continue à recouvrir. Après, l'argent, il rentrera dans une caisse, dans une autre, c'est pour l'autre trésorerie. Bon. Donc, le problème des gens qui n'ont pas payé par rapport à ce qu'ils ont payé, c'est une histoire de juridique, c'est un peu comme ceux qui ne payent pas la cantine, on en a certains. Bon. Le percepteur, il fait son truc, nous on édite les titres de recettes, et je dirais l'institution diverse, le huissier, fait saisie sur salaire, fait ce qu'il doit faire, c'est pas nous qui sommes chargés de recouvrir la dépense d'autres hommes. Donc, ces sommes, elles sont, je dirais, un contentieux. Ça, c'est l'aspect financier. Donc, ça ne change rien, la facture qui a été mise, à un moment donné, elle sera payée, une manière ou une autre. Donc, il y a égalité dans tout, entre ceux qui n'ont pas payé et ceux qui ont payé. Si, ben, après. Si tu payes pas ton, si tu payes pas ton électricité, d'un coup, et puis c'est géré, mais n'empêche que tu ne peux pas dire que parce que celui qui la paye, il est avantagé. Il est désavantagé.
Tous ceux qui n'ont pas encore reçu
le permis, j'ai mal dû m'expliquer. Effectivement, tandis qu'un de celui qui reçoit sa voiture, il paiera ou il passe son choix d'estimer. Mais tout le monde n'a pas été. Tout le monde n'a pas été contrôlé.
C'est
donc qu'il y a une inégalité là.
Oui, c'est pour ça que l'appel d'offres remet sur la totalité des communes du SAN
et sur l'intégrité par rapport à ce
document. Et sur l'intégrité, une remise à jour des fichiers et un état. Voilà. Le problème, c'est que comme on était à peu près à 60 euros, quelque, je crois qu'on est à 40 et beaucoup plus à 40, et qu'il y en avait d'autres problèmes dans votre commune, il a été décidé de dire bon, pendant 6 mois, il va y avoir un no man's land avec personne, mais comme ça fait des années qu'il n'y a personne sur le sujet, que les fosses septiques n'étaient pas contrôlées. Donc, on relance un appel d'offres sur les 100 000 habitants de l'Ouest-Provence. Est-ce que ça a une utilité vu la métropole de truc, mais bah, chaque chose a son temps. Bon. Et de manière à ce qu'il y ait un service avec un service dédié d'une société dédiée qui soit un constat de l'Ouest-Provence pour que tous les territoires, puisque c'est une compétence de l'Ouest-Provence et que tout le monde doit traiter à la même ancienne, soit traité à la même ancienne. Voilà de pourquoi actuellement ce no man's land provisoire. Voilà.
D'ailleurs, c'était un gros succès au moment de la consultation du PLU, parce que sur le PLU, il y a, par des petits points rouges ou bleus, les gens qui ont été contrôlés, et si leur fosse septique était conforme ou pas. Et là, on voit les gens qui n'ont rien de quartier, où il y a deux personnes qui ont été contrôlées, les autres non. Donc, bon, mais ils sont...
Donc, en forme, tout ce qui a été contrôlé, c'est 49% de l'encombrement.
Je précise quand même que.
Ça fait beaucoup quand même.
Le maire a autorité pour faire respecter le maire ou son délégataire de l'Ouest-Provence. Petit problème, s'il est constaté non conforme, je me dois, l'Ouest-Provence est fort, de faire les travaux, mais je n'ai pas le droit de rentrer dans la propriété, je n'ai pas le droit de pouvoir envoyer une entreprise de date. Il y a un petit problème de gestion derrière qui fait qu'il n'y a
pas
de suite.
C'est pas la seule contradiction.
Mais par contre, s'il y a une pollution, je suis responsable parce que je n'ai pas fait que la pollution, parce que le problème, c'est que je ne peux pas aller empêcher la pollution. Donc là, on a des petits problèmes. On essaie en plus de voir comment on peut résoudre ces genres de trucs, parce que c'est le même principe pour débroussailler à 50 mètres sur les maisons, on a deux possibles, on ne peut pas rentrer. Bon. Il y a toute une série de trucs où il est facile de sortir des lois, de dire c'est la commune qui gère, mais pas qu'on n'a pas les moyens. Mais enfin, voilà, on ouvre un débat. Je reviens au... Oui.
Alors, deux remarques là, une discussion que j'avais mis en position qui est intéressante sur le rendement hein, de l'eau. C'est vrai qu'on avait un rendement de 65% qui est toujours très bas hein, le rendement dans les communes. Et là, bon, Francis le signalait, hein, on est arrivé à 92% de rendement. Et on a même passé 94% en 2010, ce qui est quand même exceptionnel.
Non, c'est pas exceptionnel. C'est le calcul qui a été modifié. Le calcul qui a été modifié. Non, mais avant, je vous parle d'un détail. Avant, les poteaux incendie, etc., n'étaient pas comptabilisés à pas de compteur. Donc, s'il y a des communes où tu as, allez, je vais dire, une zone où on a régulièrement des campements qui viennent se brancher sur un poteau incendie. Ça passe au compteur général, c'est pas enregistré, c'est vendu à personne. C'est pas de l'eau qui est perdue, c'est de l'eau qui n'est pas comptabilisée. Il y a toute une série de fontaines et de trucs dans les mairies où il n'y a pas de compteur, où c'est pas comptabilisé. C'est pas comptabilisé. Donc, c'est-à-dire que dans le rendement, c'est le volume passé au compteur général en pourcentage de la facturation. Mais si là, les boîtes d'arrosage, dans les communes, on avait des boîtes d'arrosage, il n'y avait pas de compteur. Maintenant, on est tenu d'avoir des compteurs. Toutes les jardins qui étaient arrosés, jardins municipaux, toutes les communes, bon, il y en avait comme ça. En ayant obligé, c'est la loi sur l'environnement, obligé d'avoir des compteurs sur les boîtes d'arrosage, etc., on recomptabilise une partie de l'eau, alors il reste toujours la partie de fuite perdue, proprement dite, où les recherches sont améliorées avec des trucs, mais on a augmenté le rendement de toutes les communes, pas parce que d'un coup on s'est mis à réparer toutes les fuites, parce qu'on a pris en compte toute une série de volumes qui n'étaient pas comptabilisés, parce qu'ils n'étaient pas sur compteur pour tous les samedis, etc. Voilà la vraie explication d'augmentation du rendement.
Il faut dire aussi que c'était la lutte contre les fuites, là. c'était quand même amélioré et complété par, bon, comme je viens de le dire, hein, le rendement, c'est le ratio avant le compteur, hein, entre l'eau distribuée et l'eau facturée.
Entre l'eau fuite et l'eau
contre les fuites, après le compteur, hein, chez les particuliers. Et chez nous,
là, chez le particulier, elle est comptabilisée.
Voilà. Et chez nous, commune, on a fait un effort depuis 2009-2010, justement. Alors ça ne rentre pas dans le rendement, hein, mais dans la lutte contre les fuites et contre tous les petites, le petit gaspillage d'eau qu'il pouvait y avoir au sein de la commune. Alors, ça n'intervient pas là-dedans, mais ça fait partie aussi d'une politique de la commune.
Il n'y a pas de vote là ?
Vous avez parlé là, d'améliorer la station d'épuration.
Oui.
Parce que là, par contre, en rendement, on est toujours à gros. Bon, on a un index excellent.
Les rejets sont globalement comme ça.
Ce que j'allais dire, on a dans la partie d'eau qui est traitée, elle est très correctement traitée. Le gros problème, c'est quelle est la partie d'eau qui est traitée et celle qui n'est pas traitée. On a vu dans les rapports du temps où on disposait des RAD, là, des rapports du délégataire, rapport d'activité du délégataire, donc on avait tous les chiffres, absolument tous les chiffres. Là, on avait des rendements qui, bon an, mal an, se baladaient. Enfin, en gros, il y avait 40-45% d'eau qui rentrait, d'effluents qui rentrait, qui ne pouvait pas être traité, simplement parce que l'apport était tel que le traitement ne pouvait pas se faire. En gros, on rejetait des eaux polluées non traitées à la Toulouse. Ça continue, puisqu'on n'a pas amélioré le rendement de telle façon qu'on passe de 2500 kg à 4000 maintenant.
Ce que vous évoquez, ce n'est pas le rendement.
Moi, je vais écouter.
Le problème du pluvial, le ménage du pluvial et l'assainissement.
Les traites sur les dutoirs qui viennent de la station d'épuration, c'est-à-dire l'eau, là où l'eau a été traitée, et les analyses qu'ils ont faites légèrement en amont dans la Toulouse et légèrement en aval dans la Toulouse, à l'aval et en amont de cet exutoire. On a des deltas de pollution vraiment conséquents. C'est pas de quoi s'effrayer, c'est pas un CVO, mais il y a quand même une quantité énorme de cochonneries qui de temps en temps sont relevées, et ça sur 100 mètres, quoi. Donc ça vient bien de la station, parce qu'il y a eu un temps aussi, la question s'était posée, si ce n'était pas le canal qui...
Non, c'est salaud. Ouais. Alors ce que vous évoquez quand vous parlez d'ordonnement, c'est ce qu'on appelle la dissociation ou pluviale ou usée. C'est le pourquoi, entre autres sur le centre-ville, quand on aura fait toutes les canalisations du centre-ville, on avait la moitié de nouvelles salles de bain, d'amélioration de maisons du centre-ville, qui pour des raisons historique ou parce que techniquement c'était difficile, c'était plus ou moins balancé directement par X prix. Voilà. Quand on a fait tous les travaux, on a fait d'ailleurs la fumigation et on en fait encore pour voir si tout est conforme dans les propriétés, encore. Et on a donc amélioré, qui fait qu'en période, quand on a notre nappe phréatique, plus le changement des collecteurs à degré de centre-ville qui avait énormément de fuites avec des racines, etc., ou dès qu'il pleuvait ou que la nappe phréatique montait, on récupérait des eaux de pluie, ce qui fait que la station, elle ne pouvait plus traiter parce que c'est pas pluvial, et qu'on avait à ce moment-là du rejet direct parce qu'on ne pouvait pas traiter la totalité des volumes parce qu'il y avait 80% d'eau de pluie. On a également, c'est ce qu'évoquait Francis, commencé à remplacer les deux plus gros collecteurs qui récupéraient, disons pas des eaux de pluie, mais des eaux de la Touloubre. Vous avez les collecteurs de bord de la Touloubre qui étaient des passoires parce que suite à la pluie, bon, qui récupéraient dès que l'horizon montait un peu, le collecteur se remplissait et on pompait, on boucle. Tout ça, c'est des travaux qui font que la station d'épuration en période d'orage, en période de haute eaux, a beaucoup moins d'eau à traiter, moins diluée, et que l'on traite mieux et que la pollution sera. C'est aussi ce qui s'est passé. Enfin, le problème de la station d'épuration, c'est pas qu'elle marche mal, en situation normale, elle marche bien, c'est que c'est une équivalente de 3500 habitants, et qu'on commence à être au taquet quantitatif, voilà, et qu'avec les nouveaux lotissements, les tourisme machin et les années à venir, on part sur les 5000 équivalents habitants. C'est pour ça, après réflexion, de retaper la 3500, ça revenait plus cher. on reconstruit la totalité d'une station sur le terrain avant qui est réservé au plan d'occupation des sols, qui est en cours d'acquisition, pour construire une nouvelle station d'épuration, une nouvelle énorme plomb, zinc et tout le bazar, à 5000 équivalents habitants, pour tenir compte des nouvelles constructions.
Alors, on a vu, j'ai vu une petite section au niveau de cette reconstruction de la station d'épuration, à savoir que dans notre projet de passage là, en préservant la biodiversité, on avait demandé en commission environnement du SAN que ça soutenait un traitement tertiaire, c'est-à-dire qu'il y avait le traitement des boues, il y avait la décantation, et un traitement tertiaire, on avait prévu le petit lagunage. Le lagunage, ça permettait d'avoir une eau parfaitement, pas parfaitement pure, hein, on n'allait pas la voir, hein, mais bien meilleure. Et en plus, ça soutenait une faune ou une flore intéressante. Donc ça, ça n'a pas été retenu, ça coûtait plus cher. Mais par contre, les installations sont prévues à des emplacements tels que cet équipement tertiaire peut être fait par la suite. Donc il n'y a pas de problème et j'espère que ça sera fait le jour.
C'est-à-dire que le jour on a un peu plus de sous, on peut faire le ménage.
On peut faire le ménage.
Donc, puisqu'il n'y a pas de vote, j'en viens au CDA Grands. Je vous rappelle qu'on a c'est le troisième CDDA sur la commune. Il y a une CDDA Ouest-Provence avec notre dotation. C'est ce sur quoi on va faire la maison des assos, le stade et les ateliers, plus un peu de voirie. Puis on a un CDDA complémentaire de dotation par le Ouest-Provence. Et nous avons négocié avec le Conseil Général un CDDA commune déposé par nous, réalisé par nous, que l'on vous présente, Manu.
Bien, au budget 2012, nous avions déjà prévu un investissement évoqué, la réhabilitation de la salle des fêtes et de la halle des sports. Les investigations et les travaux préparatoires ont bien avancé et ces travaux sont planifiés pour l'été 2013. Donc, s'ajoute à ces deux opérations la construction d'un parking à place des anciens établissements romans. Cette opération, donc globalement, de réhabilitation et de construction du roman, dans un montant global de 1 623 156,35 €. Nous vous proposons donc d'adopter le financement suivant. Coût du projet, je viens de vous le dire. Nous demandons un subventionnement au Conseil Général au niveau du dispositif contrat de développement et d'aménagement pour 2013. De un montant de 811 578,15 €. Par le biais, dans le cadre de Agir, nous pouvons obtenir 200 000 € de subvention du Conseil régional, ce qui fera à la charge de la ville un autofinancement de 611 578,15 €. Et tout ça sera donc prévu au budget d'investissement 2013. Mais il nous faut faire le nom de ce renseignement, c'est pour ça que vous avez aujourd'hui.
Ces 600 000 font partie des 800 000 que j'ai annoncé au vœu. Les 200 autres 000, c'est les travaux de voirie complémentaires, des travaux de prox. Y a-t-il des questions? Oui.
Bon, Saint-Esport, on en a parlé, mais est-ce qu'on pourrait pas en savoir un peu plus sur le parking? On va faire des garages, c'est déjà.
Oui, c'est déjà annoncé. On a racheté, donc par le 10 millions de l'Ouest-Provence, on a racheté le terrain de Romans. Suite à la demande des plans de circulation et des discussions avec les gens du quartier qui souhaitent avoir des voitures protégées, enfermées, donc il y a un projet qui est à l'étude de 34 ou 35 places de parking, donc 16 garages. Même un peu plus. Il y a 16 garages fermés qu'on va louer. Le but de la location, c'est de rembourser, puisqu'on a 50% de subvention, que le parking va coûter à peu près 500 000 € à la louche. Si on a 50% de subvention, en notre charge, il y a 250 000 €. Sur une quinzaine d'années, la location des parkings, c'est-à-dire que ça fait une personne blanche pour la commune, puisque la partie, alors on ne fait pas d'emprunt, mais la partie d'autofinancement de la mairie sera remboursée sur 15 ans par les locations des garages. Et il y aura, c'est plus totalement mémoire, mais 25 places à peu près gratuites, libres, soit sur le garage, soit à côté, qui compléteront la demande du quartier sur le nombre de places qu'on a vu nécessaires pour qu'il n'y ait plus des voitures sur les trottoirs.
Et les gens du quartier ont demandé des places.
Oui. J'ai déjà des lettres de gens qui me disent je réserve. Je réserve. Et donc, voilà. Il y a des années, il n'y en a pas encore déposé, j'ai au moins 4 à 5 demandes déjà de gens qui m'ont physiquement écrit pour me dire je suis preneur d'un garage. Quand c'est que je suis.
Vous envisagez de donner les garages à quel prix pour les amortir.
15 ans, c'est amorti. Je vous l'ai dit. Ben, le tarif d'un garage d'Angrance, je pense qu'on pourra le sortir à moins. Un garage d'Angrance, un centre-ville grand, c'est 80 à 100 euros par mois. Le tarif.
Hein? C'est les prix de Paris 150.
Oui, mais c'est ce qui se loue. Tu vas chez. Comment il s'appelle chez. Chez ma fille, là.
Oui, non, mais c'est pas.
Fernand, il est où 100 euros? Parce qu'on en arrivera à aller au moins, nous, le but, c'est pas de faire des nefs, hein. C'est d'amortir l'autofinancement.
Hein. Oui. Et les places à l'air libre, elles seront en zone bleue ou pas?
Ça, non, je vois, on verra quelques jours, mais non. Non, mais l'air libre, c'est gratuit, hein. Oui.
Sur le principe. Ah oui, sur le principe de. Je le rappelle quand même, ça fait ça depuis de nombreuses années maintenant, que on, la municipalité a décidé de se débarrasser des propriétés, et on avait fait pas mal d'appartements pour nous, en se disant on n'est pas là pour faire, on va pas se faire s'emmerder à gérer, à aider. Et maintenant on va construire du garage, 16 ans, donc on va faire du mécontent. Donc de toute manière, au bout de 15 ans, c'est tout à fait sur la
table. Quoi, je vais faire du mécontent.
Parce qu'ils auront pas de mécontent. En plus, il va avoir
une prime. Ben, c'est voir des voix en plus.
Ben, c'est sûr.
Donc, tu devrais dire, en fait, que j'adore quand j'ai donné.
C'est la dernière fois en plus, ça. C'est même la sortie de
l'écart. Et oui, il faut que je justifie qu'on va tirer trop liste. Voilà. Ben, il me tend la perche. Hein.
Et oui, c'est
pas grave. C'est à faire des
contacts. Une fois maintenant, en fait, ça. Ce que je veux dire, quand même, c'est que là, il va y avoir quelqu'un qui va gérer.
Ah oui, pourquoi?
Il y avait quelqu'un qui
va
ici en
mairie,
justement.
Et pourquoi
les services
pour
seront étoffés, hein.
Ouais, tu peux. Deux, il y a ce qu'on appelle des syndics qui peuvent confier la gestion.
Non, c'est parti dans ce là, dans l'immobilier. Alors qu'on a balancé, on est parti en maison, on en a parlé, on en avait la toujours là. Alors qu'on aurait pu avoir nous des maisons à des tarifs. Maintenant, on fait ça ne gêne pas. Si, ça ne gêne pas.
On dépense des sous, on a beaucoup de sous.
Pourquoi on ne peut pas les passer?
Non, on ne dépense rien.
On ne dépense rien.
Quand on voit qu'on fait en général, ça coûte 600 000 euros.
Oui, dans 50% de subvention. Ça vous donnera une bonne occasion de dire que vous ne voulez pas des garages. Voilà. Donc, qui est contre?
Garage, oui.
Non, qui est contre le CDDA? Là, on ne vote pas les garages, on vote la demande de subvention. Là, c'est la demande de subvention au Conseil Général. Demande de subvention au Conseil Général, titre le CDDA 2013. Voilà.
Il y a les points de temps.
Eh bien, c'est déjà, oui, c'est nous.
Oui.
Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Un, alors, abstient. Un, deux, trois, quatre. Merci. Faut que vous ayez plus rameau. Alors, modification des rimes scolaires. Madame Pascal, toujours.
Oui, donc cette délibération a pour but de recueillir un avis du conseil municipal sur la réforme de la refondation de l'école. Donc un décret du ministre de l'Éducation nationale et des sportifs concernant la réorganisation de la semaine scolaire. Donc cette semaine scolaire a été réorganisée.
C'est pour ça que sur votre délit, vous écrivez va sortir quand d'autant il est sorti. Voilà.
Donc, cette organisation, cette nouvelle organisation est décidée par le DANEM, qui est le directeur académique de l'éducation nationale, sur proposition du conseil d'école et des élus, et dans le respect de certains principes qui sont énumérés dans la délibération, à savoir que la semaine scolaire doit comporter pour tous les élèves 24 heures d'enseignement réparties sur 9 demi-journées, que ces heures d'enseignement doivent être organisées les lundis, mardis, jeudi, vendredi et mercredi matin, à raison de 5h30 maximum par jour et 3h30 maximum par demi-journée. Sachant que la pause méridienne ne doit pas excéder 1h30 et qu'il y a également un temps éducatif ou scolaire qui doit être garanti jusqu'à 16 ans 30, c'est les fameuses APC qui remplacent les HAP, accompagnement éducatif, fait par les enseignants. Donc l'entrée en vigueur de cette réforme est prévue pour la rentrée 2013-2014, mais s'offre une possibilité aux communes de reporter cette réforme à la rentrée 2014-2015. Sachant qu'elle implique pour le maire de déposer une demande de dérogation au DASEL avant le 1er mars 2013, si on veut différer donc, la mise en place de la réforme. Les communes qui vont adhérer donc, à la rentrée 2013 à cette réforme vont se voir attribuer une aide forfaitaire de 50 euros par élève et d'une majoration de 40 euros pour les communes urbaines et rurales. Les communes qui reporteront la réforme à la rentrée 2014 ne bénéficieront pas de cette aide forfaitaire. En revanche, la majoration pour les communes pauvres sera maintenue et s'élèvera à 45 euros par élève. Il est également prévu dans ce décret un assouplissement du taux d'encadrement des centres de loisirs, sous réserve que le dispositif soit relaté dans un projet éducatif territorial. Donc, considérant toutes ces choses-là, nous avons décidé de reporter, nous, la réforme à la rentrée 2013-2014 pour des raisons de...
Nous vous proposons de reporter. Nous proposons de reporter.
Nous proposons. Nous proposons qui est de reporter parce que les délais sont très courts et que d'autant plus qu'il y a beaucoup de communes qui ont déjà refusé et que l'harmonisation sur le territoire est indispensable pour donner une certaine solution. Oui.
On veut bien intervenir pour poser quelques questions sur ce sujet, mais je ne suis pas un grand spécialiste de l'éducation dans le primaire. Est-ce que, bon, à un moment donné, bon, c'est vrai que ça fait déjà quelques mois qu'on parle de ça, les rythmes scolaires vont changer. Par contre, bon, moi je trouve un peu aberrant qu'ils envoient le décret à la 48 qui demande l'avis du maire avant qu'on les marque. Donc c'est vrai que c'est un peu fou. Mais bon, néanmoins, ce soir, ça serait bien qu'on en parle pendant 5-10 minutes. Qu'est-ce que bon, vous avez fait votre choix de reporter? Donc, ça veut pas dire, est-ce que vous avez des pistes? Est-ce qu'à un moment donné, ça a été discuté un peu avec les enseignants du primaire? Parce que ça, ils en avaient commencé à parler avec les parents, les fédérations, toutes les associations, parce qu'il faut savoir que le changement de rythme scolaire, donc, ça va avoir des
incidences au niveau de la famille. Déjà, quand on dit changement de rythme scolaire, tout le monde n'est pas dupe, je ne sais pas si vous voulez la presse syndicale, la presse de café pédagogique, des choses comme ça. Mais les rythmes scolaires et la journée des enfants, vous voyez bien que ça ne va absolument pas être allégé, puisque la journée va finir à 16h30. Voilà, et que donc la journée indienne reste la même, et quand on est
là, on est là. Il y a une certaine latitude. Les enfants doivent être à l'école jusqu'à 16h30. Est-ce qu'à un moment donné, les heures, est-ce que ça a été discuté avec les enseignants, les parents? Parce qu'effectivement,
c'est pas la grâce. Moi, je vais poser des questions. Le problème n'est pas là. Le problème, c'est qu'il faut se décider aujourd'hui pour une réforme qui implique des coûts, qui implique des coûts de fonctionnement, qui s'élève à peu près à 250 euros par enfant, il faut le savoir. Donc, les 50 euros, on voit bien que ça va durer un an et après, c'est un charge des communes. Donc, ça redemande une réorganisation des locaux, des associations qui vont devoir traiter des salles, etc., changer des salles par rapport à ce que les horaires vont être différents, et que simplement, nous n'avons pas le temps, à l'heure actuelle, justement, de réorganiser ça dans des conditions favorables. C'est pour ça que nous reportons, nous pensons qu'il est plus sage de reporter à un an.
Mais qu'on puisse ce soir de lancer le débat.
Et à ce que
vous dites,
à
ce que vous dites,
Évidemment.
Sur l'arrondissement de Salon, nous avions envisagé un temps de dire en effet, puis la discussion avec le service de l'Académie, qui est la seule commune à envisager de le faire. Sur les Bouches-du-Rhône aujourd'hui, il y a 115 communes qui ont répondu non. Alors, devant cette situation et les syndicats et les enseignants qu'on a vus, nous étions également dans la situation de considérer qu'il n'y a pas que le calcul de la ville de Grance dans ses problèmes. Une famille de Grance, on ne le pas parce qu'on n'en a pas, qui a ses gamins qui vont à la piscine le mercredi matin. Alors moi, bon. Salon ne le fait pas. Il y en a, mais je dis ça parce que j'ai des gamins qu'on a évoqués. Bon, cette famille-là qui habite Grance, mais qui va à la piscine à Salon parce qu'on n'en a pas, Salon ne a décidé de ne pas faire. Donc, le mercredi matin, les associations diverses et variées de natation et tout vont continuer à ouvrir aux gamins, puisque nous, on serait les seuls à leur dire non, mercredi matin, vous venez là. Donc, il y a aussi une concertation que vous avez dû voir dans la presse avec l'Académie, avec les enseignants lycées, etc., qui fait que on était quasiment les seuls à envisager, parce qu'elle y a travaillé, éventuellement, de dire bon, ben, y être, attendre pour attendre, on commence, on va voir un peu petit à petit. C'est-à-dire qu'on était quasiment les seuls dans la région. Je crois qu'il y a 6 communes sur les Bouches-du-Rhône.
Voilà. Alors, attends, parce que la circonscription de Grance est rattachée à la circonscription du Salon. Il y a mal de ses emportés dans la circonscription du Salon. Je veux dire que ici, l'inspectrice de l'Académie d'ici, l'IOS d'ici, elle a Salon, Félixal, Auron, Cibourg, Grance, Cornillon, c'est général. Donc, comment elle gère sa circonscription avec une seule commune qui fait 4 jours et demi et toutes les autres communes qui font 4 jours?
Non, mais il y a surtout également les enseignants qui disent on n'a pas le temps, on ne veut pas.
Oui, mais en fait, il faut une certaine cohésion sur le territoire. Tu ne peux pas avoir des remplaçants. Alors, il y a des gens qui font des mi-temps à un côté de l'autre, dans une commune, comment ils font?
C'est pas ma question initiale. Ma question est-ce que vous avez déjà abordé avec les enseignants, les parents,
oui,
etc.
Oui. Et aujourd'hui, le constat, c'est tous. Ouais. On se donne du temps, on porte. Donc, c'est comme eux. Si tu as cette constatation, voilà.
Vous avez parlé
de... Non, on
va
en discuter. Tu me demandes si on ne peut pas avoir décidé de la semaine scolaire et du forêt, qu'on reporte le projet. On n'a pas le temps, là.
Dans la mesure où déjà au départ, 95% des communes disent non, ça cale à peu près le truc. Dans la réflexion, il faut qu'on soit collectif.
Mais de toutes les manières, un décret va falloir l'appliquer. Et si on ne fait pas ça, on fera l'année prochaine. Oui. On leur dire non pour mieux reculer.
Et au cas combien, au moins les animaux, là,
bon, il vous est donc proposé de ne pas appliquer. Qui est contre? Enfin, qui veut appliquer?
Oui.
Qui veut appliquer tout de suite? Non, non, mais ouais, c'est ça la question. On l'applique, ouais. Qui veut appliquer tout de suite? Trois va l'appliquer tout de suite. Qui n'a pas d'avis? Voilà. Et qui ne veut pas appliquer le reste? Merci. Alors, information, décision municipale, vous les avez. Donc, je vous propose de reconvoquer à la même date, au même lieu, au même heure, là, un nouveau conseil municipal pour un point à l'ordre du jour. Est-ce qu'il y a des objections? Je considère que les présents et les absents sont les mêmes. Et donc, après approuver, merci, vous pouvez bien discuter ailleurs encore là-bas, merci. Acquisition de parcelles cadastrées, Fabienne Brunenger, pour une urgence pour 12 mètres carrés.
C'est pour élargir la ville, c'est un emplacement réservé au PLU, et donc avec le droit de pension, on l'achète.
Pour élargir la ville,
Chemin de la Goule. Voilà,
et donc la personne nous demande de... C'est trop onéreux.
Donc il y en a pour...
3724 euros.
Qui contre? Qui s'abstient? Oui, ben, c'est une acquisition au PLU. Donc,
c'est un emplacement réservé.
C'est pas la question, est-ce qu'on l'achète, que ce soit légitime de l'acheter, que ce soit plus légitime de l'acheter, c'est le prix qui me change.
Est-ce le prix des domaines?
Domaine.
Le prix des domaines. Et vous savez que nous sommes tenus d'acheter dans un maximum de 10% du prix des domaines.
Et ce que je sais pas, c'est pourquoi il n'achète pas toute la Marseille.
Parce qu'ils ne vendent que cette partie-là, que la partie sera
la parcelle, il y a une maison et un morceau de terrain, et on n'achète que le morceau de terrain qui est sur le chemin d'Agboul. On ne va pas appréhender la maison.
Si vous avez vu la lettre que j'ai reçue du conseil général.
Si on fait l'alignement de la voie, alors on peut ça.
Non, c'est un passage qu'il y a derrière, le passage de l'Agboul. Conseil général vient de nous proposer 126 mètres carrés de terrain à la glacière pour 40 000 euros.
Oui,
40 000 euros,
168
mètres carrés. Bon, merci, les séances.